Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Salut Rokaya.
Salut Grace.
Salut les auditrices.
Vous trouverez la suite de Kif Taras et les nouveaux épisodes à écouter sur votre plateforme habituelle de podcast.
Faites simplement une nouvelle recherche avec le titre Kif Taras chez Pseudo Radio et abonnez-vous à ce fil.
Bien sûr, les 4 premières saisons des épisodes de Kif Taras resteront toujours disponibles chez Binge Audio.
Merci pour votre écoute précieuse
et à bientôt.
Binge Audio présente.
Bonjour Rokaya.
Bonjour Grace.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales.
Comme vous le savez, nous parlons sans complexe d'arabes, d'asiatiques, de roms, de noirs, de blancs, de juifs, de musulmans. Vous le savez, on en parle régulièrement, l'esclavage et la colonisation ont contraint les corps non blancs à une soumission qui est allée jusqu'à les réduire au rang d'objets. Exploités pour tirer des ressources matérielles des territoires colonisés, violentés physiquement, psychologiquement, sexuellement, voire tués, les personnes victimes de la domination coloniale ont longtemps été le sujet des projections de leurs oppresseurs. En s'emparant de danses qui sont devenues des symboles protestataires, les corps dominés se sont rebellés. Pour autant, les préjugés racistes persistent à enfermer leurs expressions dans un geste instinctif dépourvu d'intelligence. Comment créer et danser librement? Comment assumer son expression artistique sans être instrumentalisé?
Pour répondre à cette question, nous recevons Bintou Dembélé. Bonjour Bintou.
Bonjour Bintou.
Bonjour Grace. Bonjour Rokaya.
Donc tu es l'une des artistes majeures issues du mouvement qu'on appelle hip-hop en France, chorégraphe, directrice artistique. Tu as collaboré avec les plus grands artistes en France et les plus grandes institutions culturelles et universitaires en France et aux États-Unis.
Dans Kif Taras, Bintou, tu le sais peut-être, on a un petit rituel. On demande à nos invités s'ils ou elles se situent sur le plan racial. Par exemple, Grace en France est perçue comme une femme asiatique et moi comme une femme noire. Est-ce que tu te situes, Bintou ?
Alors, je me situe plus ou pas. Il y a très longtemps, je me suis dit d'origine hip-hop. Vraiment, j'avais une perception du monde qui était façonnée autour de cette culture-là. Que ce soit ma manière de me mouvoir dans l'espace, mes gestes, ma langue. Tout un univers qui, pour moi, était une bulle, un espace refuge où de fait, j'étais plus habité de ça qu'autre chose. Mais avec le temps, le mouvement, le déplacement, c'est un flou qui s'est plutôt posé à moi. Et c'est des va-et-vient, en fait, qui fait que j'hésite à me définir. Je me dis, quand je vais au Sénégal, je peux pas dire que je suis une femme noire. Ou à ma mère, lui dire, tu sais, en tant que femme noire. Donc je me dis, je vais pas lui imposer une langue ou une façon d'être qui va un peu la mettre, elle aussi, dans le flou. Et puis vraiment, je pars de cette adresse qui est celle du quartier, comment on a pu se gérer, s'autogérer, se définir, se réinventer, à partir de ces zones de flou, à partir de ces zones de silence, de vide. Et effectivement, moi, je suis fervente défenseuse de ces endroits où on utilise le moins le mot. Donc, cette façon qu'on a de se regarder dans la rue pour dire « Non, mais lui, c'est Nouvelle Jordan, c'est quelqu'un du hip-hop, là. » On vraiment se reconnaissait dans la rue avant. Et donc, voilà, moi, c'est plutôt les gestes, les attitudes, tout ce qui n'est pas verbal qui me parle énormément. J'entends l'importance qu'il peut y avoir de se définir, mais je suis vraiment dans un truc où c'est en va-et-vient, moi. C'est vraiment le geste qui est plus puissant que le mot.
Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où la question raciale s'est imposée à toi ou pas?
Ah ouais, il y en a trop. Il y en a en particulier, parce que j'aimerais beaucoup partager mon expérience de la communauté ou de la famille ou des familles choisies. Et je me souviens que dans la cité, donc moi j'ai grandi à Brétigny-sur-Orge, à 30 km de Paris, mi-banlieue, mi-campagne, il y avait ce qu'on appelait à l'époque des manouches, donc des Roms qu'on dirait aujourd'hui, avec qui on avait souvent rendez-vous. C'était la famille Aimé et la famille Dembélé qui avaient rendez-vous pour se taper. Sauf qu'à un moment donné, ma sœur qui venait du Sénégal à l'âge de 12 ans, elle a fait la différence, elle a été prendre le plus grand, elle l'a boum. Et je me suis posé la question de pourquoi on avait à se battre pour être dans cet espace public. Et je me suis demandé si la difficulté, elle n'était pas pour eux de voir des Noirs dans une cité et eux de les avoir en caravane, alors qu'on était scolarisés au même endroit. Donc voilà, ça c'est un fait qui m'a marqué, de me dire qu'entre nous, ça va être compliqué aussi.
Donc tu disais qu'il y avait plusieurs moments dans ta vie qui t'ont fait prendre cette conscience, mais en fait, elle est plutôt née de questions de voisinage, en fait.
Non, c'est les tensions de cohabitation. Je partirai de la question de l'espace public. Pour moi, le hip-hop a pris l'espace public, il s'est imposé dans l'espace public. Mes parents étaient la génération de ceux qui rasaient les murs. Nous, on a essayé d'habiter cet espace public avec d'abord du sport. On est dans le hall, on refait le monde dans le hall. Ensuite, c'est les grands qui créent des MJC, des maisons pour jeunes, où on pratique nos cultures. Et après, ça vient en confrontation avec le PS ou le PC qui vient saisir nos espaces de jeu ou de rendez-vous. Voilà. Et donc là, on est en train de lutter en disant, mais c'est nous qui l'avions construit. Donc voilà, je vais plutôt parler de ça. Après, de fait, je pars avec le fait de ne pas avoir la langue de mes parents, le soninké. Donc je cherche une culture qui va me permettre de reconnaître mon africanité. Et c'est le hip-hop qui va venir combler ce vide, quoi. Donc, quand je dis qu'on était d'origine hip-hop, c'est sincère, quoi. On était portugais, espagnol, asiatique, mais on était hip-hop, quoi. On était d'origine hip-hop, vraiment. C'était notre religion. On était spirituellement, on était habité de ça, quoi.
Bah justement, à propos d'origine hip-hop, je vais te faire écouter un petit son qui t'est sans doute très familier. Alors, les plus anciens et anciennes d'entre nous ont reconnu le son. C'est le générique de l'émission culte de Sydney, lancée sur TF1 en 1984. Comme son nom HIP, HOP l'indique, elle est consacrée au hip-hop. C'est non seulement la première émission au monde consacrée à ce mouvement culturel, mais elle fait aussi de Sydney la première personne noire à animer un show sur une chaîne nationale française. Bintou, tu es une enfant des années 80, si je ne m'abuse. C'est la décennie qui a vu surgir le hip-hop en France. Est-ce que tu peux nous dire comment s'est passée ta rencontre avec cette culture?
Par les trois chaînes de télé à la maison. Donc, je me dis aussi enfant de la télé. Et donc, c'était le dimanche que passait cette émission. Je crois que c'était
19 février 84.
Et elle a duré un an, malheureusement. Et je pense que, malheureusement et heureusement, parce que finalement, elle a créé une frustration chez nous parce qu'elle n'avait pas duré, alors que moi, je pense qu'elle a marché, en tout cas. J'ai eu vraiment l'impression que c'était une émission qui s'adressait à moi, qui était faite par nous et pour nous. Et vraiment, moi, ça m'a happé, quoi. J'ai ce souvenir fort, alors que j'ai des fois la mémoire qui vacille, de voir Sydney sur la tête et présenter l'émission comme ça. Et vraiment, je me dis que c'est comme ça que je vais voir les choses. Je vais faire ça, on va pas pouvoir m'arrêter, quoi. Donc, j'étais en concurrence avec ma mère qui regardait Dallas. Enfin, il y a des trucs comme ça. Et le pire, c'est qu'on n'avait pas de télécommande. Donc, c'est moi qui devais changer la chaîne. Oh là là, j'avais le... Et donc, cette tension qui m'habitait de confrontation entre Dallas, ce manque-là a fait qu'on est sorti. Ça a été notre façon d'habiter le dehors, l'en dehors, et puis de vraiment déployer cette danse, de faire comme. Au début, on faisait comme les Américains. Et au fur et à mesure, vraiment, voilà, c'est passé du carton au lino, du lino à la MJC, de la MJC autour du monde, quoi. Donc, je n'ai pas vu la chose venir, mais voilà, je suis passé du rêve à la réalité. Et j'invite les gens vraiment à habiter leur intuition et leur rêve, quoi.
Quand on parle du hip-hop, de la culture, du mouvement, surtout à ses débuts, on le voit, en fait, c'est souvent synonyme d'arabe et de noir. Alors même si toi, tu dis tout à l'heure, il y avait des Portugais, il y avait des Asiatiques, il y avait...
Clair.
Pourtant, on est toujours dans cette réduction du prisme, du regard. Et d'ailleurs, on utilise des périphrases aujourd'hui, on dit cultures urbaines ou... Je ne sais pas si tu utilises ces mots-là, non. Mais...
non, cultures urbaines, pour moi, c'est un fourre-tout, c'est un terme institutionnel, c'était une case pour les subventions. Mais de fait, en tout cas, on était toutes les vagues de migration françaises, quoi. Je me souviens de Bi Vang, de Laos, de Théo, de Valentine, Nagata. Enfin, beaucoup sont des Carterons ou des Métis. Mais c'est des Monks, c'est des Laotiens, c'est des Japonais. Enfin, ça fait partie de mon quotidien. Et oui, en fait, c'est ceux qui n'ont pas eu l'urgence de s'exprimer pour dire leur vérité. Mais en tout cas, j'y ai été assez vite confrontée, parce que j'ai beaucoup travaillé en Guyane, j'ai beaucoup transmis en Guyane française, surtout à Saint-Laurent-du-Maroni. Et en fait, il y a deux villages, il y a Javoué et Cacao, qui ont accueilli les vagues de Hmong. Et des fois, je ramenais justement des intervenants. Et il y a eu comme chez eux un espèce de jonction qui a fait qu'ils ont été rattrapés par l'histoire, parce qu'en fait, ils la connaissaient peu, cette histoire-là, de cette violence de déportation. Et
Les Hmong, qui sont des communautés qui sont entre le Laos, la Thaïlande et le Vietnam, et qui ont été ballottées par les dominations successives des régions du sud-est asiatique et qui ont émigré, notamment en Guyane, mais aussi dans d'autres territoires, aux États-Unis, en France, hexagonale.
Tout à fait. Et donc, moi, il m'a fallu voir le film de Gran Torino, de Clint Eastwood, pour vraiment commencer à leur poser des questions. Parce qu'il y avait, pareil, un flou de savoir quels étaient justement leurs récits. Ou alors la rencontre de Boulom Souk en tant que Boat People, pour vraiment saisir qu'il faut encore cet espace-là. Il faut laisser nous-mêmes, il faut qu'on laisse de la place à nos gens pour raconter cette histoire de l'Asie. Quoi.
Ouais, Boulom Souk Svatsefan, qui est notre ami qu'on salue et qui...
photographe et réalisatrice.
Voilà. Et de la même manière que le regard sur le hip-hop est limitatif, on pense souvent à un genre, en fait, quand on parle du hip-hop. C'est-à-dire qu'on pense à un homme. Enfin, c'est souvent très masculin et c'est même très graphique. C'est-à-dire qu'on voit, comme tu parlais d'un homme qui tourne sur la tête, ouais. C'est vraiment, on pense au breakdance. Mmh. Est-ce que toi, en tant que femme, comment tu as pu naviguer là-dedans?
Alors, moi, j'ai commencé à 10 ans. À peu près en 85, je ne savais pas ce que j'étais. Enfin, moi, j'étais timide, c'est tout ce que je savais. Et que j'avais envie d'en être, j'avais la nécessité d'en être. Et que, voilà, ce que je sais, c'est qu'il y avait Anselme, Gérard et Sandrine, avec qui on s'entraînait dans la cité. Mais quand on est passé dans la cité d'à côté, Sandrine n'est pas revenue le lendemain. Et je me suis retrouvée la seule. Et ça ne m'a pas empêchée. J'avais déjà une pratique du foot, du baby-foot, enfin, de sport comme ça, qui était plutôt... vu comme masculin, mais ça ne m'a pas empêché. J'avais vraiment besoin de pratiquer. Et en fait, on était plutôt en cercle. Et c'était une appréhension pour moi de rentrer dans ce cercle et de m'autoriser à prendre l'espace, d'être au centre. Mais ça m'a façonné dans mon rapport au monde, en fait. Et c'est que bien plus tard que j'ai commencé à me dire « Mais je suis quoi, en fait ?» quoi, je sais pas. C'est comme je disais tout à l'heure, en fait, ma sœur, elle est arrivée plus tard en tant que soninké. Les parents ont tendance à laisser un enfant au village. Ma mère est venue par le regroupement familial, en fait. Et donc, je suis la première à être née en France. Et il y a eu mon grand frère et mon petit frère. Mais je suis la première à avoir dansé. Donc, j'avais pas vraiment de modèle de femme noire, en fait, quoi. Donc, j'ai cherché longtemps. Mais du coup, j'ai été essentiellement entourée d'hommes, en fait, tout à fait. Et ça va jouer sur ma qualité de danse, ma manière de me mouvoir dans la rue. Enfin, j'étais un lascar. J'étais un lascar, oui.
Et comment se déploie ta carrière de danseuse? Est-ce qu'en t'investissant dans un mouvement majoritairement porté par des minorités, des personnes minoritaires, ou en tout cas issues des différentes vagues de migration, en France, tu as le sentiment d'être dans un endroit qui est plus accueillant que dans le reste de la société?
Alors vraiment, moi, je ne vais pas parler de carrière concernant mon déplacement. Je parlerai plutôt de déplacement, de parcours de vie. De parcours de survie, même si ça a l'air jovial comme ça, la rue dans les années 80, c'était très austère, c'était les skins, c'était vraiment les violences à tout va. Donc c'est chercher un espace, refuge, une cellule où quand je sors, je sais que je vais pouvoir rentrer le soir chez moi. Donc le déplacement dont je vous parle, qui est de passer de la rue à la scène, comme on aime à le dire, il est quand même jalonné de moments de grande tension qui va traduire ma danse, qui va traduire ce besoin d'être en communauté, de laisser la communauté pour faire exister le jeu, l'intimité et compter mon récit. Mais il y a tout un langage que je ne vais pas adopter parce qu'il a l'air de tordre de plus en plus mon corps, mon âme, et que la nécessité de l'apaiser, finalement, elle va me faire passer du hip-hop au fait colonial. À l'époque, en tout cas, on n'appelle pas ça décolonial, mais le fait colonial. Et les moments, j'ai essayé de les mettre de côté en me disant ce qui est important, c'est ce déplacement et cette compréhension de ces cris du corps. J'ai eu besoin de regarder les autres danses qui étaient avant ou à côté ou près de nous. Donc, je vais parler par exemple de l'électro, qui est plutôt une danse française, qui est née dans les boîtes comme à Rungis. Voilà, c'était des gens qui étaient jetés des boîtes parce qu'ils n'avaient pas le profil. Et donc, ils ont commencé à faire des espèces de vidéos pour les montrer sur YouTube. Donc, leur espace a été YouTube. Donc, cette manière de ruser pour exister traduit en gestes, en musique, en danse, en façon de s'habiller, les cris du corps, les tensions socio-culturelles dans lesquelles je peux remonter à loin, quoi. Donc je peux remonter au sound system. Et c'est ça qui me plaît aujourd'hui, de me dire qu'on n'a pas les mots, on a des gestes. C'est aussi des gestes qui traduisent une forme d'autodestruction, finalement. Et donc, la professionnalisation, elle est venue mettre de côté cette idée qu'on soit habité d'une tension qui allait définir ce que c'était d'être de France, de banlieue, pauvre, de classe populaire, même des fois de classe moyenne et bourgeoise, mais essentiellement plutôt des Suds. Et donc, ces mots-là vont nous empêcher, vont tordre notre langue, un peu comme... Enfin, moi, j'aime à dire que le créole, c'est la langue qui tord la langue de l'oppresseur. Ben, quand j'ai parlé verlan, c'était une façon d'éviter qu'on nous comprenne, en fait. Moi, à partir du moment où les gens parlaient verlan, je fais salut, c'est mort. Donc, j'ai fait comme, parce que je croyais vraiment au fait que ces espaces-là pouvaient m'aider à comprendre ces cultures-là. Mais c'est quelque chose qui nous a travestis, qui a fait de nous des clowns, très honnêtement. Et c'est en revenant au fait colonial que je me suis dit, OK, je vais continuer à tordre ma langue. Je vais continuer à tordre mon père et ma perception du
monde. Sans le fait colonial, tu considères que tu dansais d'une manière qui n'avait pas le même sens?
En fait, on était... j'aime bien donner l'image de Truman Show. On était dans notre bulle, on a l'impression que tout le monde connaissait l'hip-hop, tout le monde savait de quoi il s'agissait.
Truman Show, le film qui raconte l'histoire d'un homme qui s'aperçoit que sa vie, en réalité, est filmée sur caméra et que le monde entier le regarde. En fait, toute sa vie est fabriquée comme un support de divertissement.
Voilà, donc autant ça m'a redressée, je suis restée droite, mais à un moment donné, ça a ses limites. Ben, les gens nous regardent, nous applaudissent, bravo, mais moi, les moments où je me blessais, donc j'étais à l'arrêt, figée, ben, en fait, je regardais, je disais, mais en fait, c'est violent ce qu'on se fait.
Et quand tu dis les gens, c'est qui?
Ah, c'est intéressant. C'est à partir du moment où je quitte ma banlieue, quand je vais un peu plus à Paris, quand je me professionnalise, c'est vrai. Quand on va dans les théâtres, quand on fait... je suis danseuse pour MC Solar à la télé. Donc, c'est plutôt les gens de la profession. Mais moi, je n'ai pas l'impression d'être rentrée clairement, nettement, parce que j'ai commencé très tôt à faire des scènes, à être dans des clips, à être à la télé. Donc, la zone pour moi de amateur pro, elle est floue aussi. Et oui, bah, c'est les Blancs, c'est les classes moyennes bourgeoises. Mais c'est marrant, mais je suis obligée de dire que ça, c'est quelque chose qui se réitère. Parce que récemment, j'ai fait des recherches sur La Main Bleue, qui était une boîte qui se trouvait à Montreuil, où des gens des foyers ou de régions parisiennes allaient se retrouver pour inviter des Salif Keïta. Donc, ils économisaient.
Des foyers d'immigrés.
Voilà, des foyers d'immigrés. Et assez vite, c'est les Parisiens qui sont venus investir cet espace-là. Et c'est ce qui a créé après le palace. Mais c'était d'abord nos cultures, nos danses, nos gens, en fait. Donc, c'est ça dont je parle. C'est ce besoin qu'on a, nous, de se retrouver avec une façon rituelle de se célébrer. Quand on ramène un Salif Keïta du Mali, c'est parce que c'est la personne qui va faire de la... Il va chanter lors d'un mariage.
Salif Keïta, un grand chanteur malien.
Voilà. Oui. Et en fait, est-ce qu'on se dit professionnel quand on fait ça? Nous, on ne le dit pas. C'est parce qu'on arrive dans des endroits et qu'il y a un statut, donc danseur, interprète, chorégraphe, que là, on commence à dire un statut. Donc, c'est cette frontière-là aussi qui est floue pour moi, où j'ai essayé de la tendre en m'amusant au départ. Et après, j'ai vu que ça me mettait de plus en plus en tension. Et aujourd'hui, parce que le corps brisé, j'ai le besoin de nommer les zones de flou et de comment nos danses n'avaient pas vocation au divertissement, mais vraiment pas. C'est la question du fait colonial à travers les zoos humains, les exhibitions humaines, que la question de la mise en scène pour le regard blanc qui nous a chosifiés, en fait, exotisés, et qui a tout plein de termes journalistiques qui ont été accolés à nous, la gazelle, vous le dites, voilà, il y a beaucoup de termes comme ça qui ne sont pas simplement pour nous identifier en tant qu'individus, mais quand on a des articles de presse, moi c'était ça, c'est la gazelle, la ceci, cela. À aucun moment on est réellement défini comme artiste et qu'on va vraiment considérer que notre démarche artistique, il y a toute une singularité parce qu'ils n'ont pas cette connaissance-là, donc on va être à l'endroit du divertissement avec tout un truc exotisant en fait.
Maintenant en 2022, on voit ce que le hip-hop représente en termes d'univers artistique et de manne économique, puisque aujourd'hui, enfin, qui ne connaît pas le hip-hop, les enfants n'écoutent que ça. Ce qu'on appelle le rap est devenu l'une des genres musicaux le plus aimé. Mais toi, tu pars de 85, quand t'as commencé jusqu'à aujourd'hui, donc il y a tout un parcours qui est fait. Donc il y a d'un côté les danseurs, les chorégraphes, les gens qui sont habités par cette culture et qui sont dans l'autodestruction, tu le dis, le fait de mettre leur corps à l'épreuve. Mmh. Et à la fois cette professionnalisation qui vous permet de vivre de cet art, de ce que vous êtes, ce que vous faites, mais qui vous expose à un regard qui sort du cercle initial du hip-hop. En fait, il y a un attrait du mainstream pour ce qui est la marge, en fait, quoi, constant. Et il y a une espèce de paradoxe là-dedans qui se ressent, en fait, dans votre... La tension que tu exprimes, elle part aussi de là. Le fait colonial, il vient aussi de cette consommation des corps non blancs par Big Brother, quoi, le regard du dominant.
C'est vrai qu'il y a cette question du langage. C'est-à-dire que le mot hip-hop, il paraît que ce serait un journaliste qui aurait donné ce nom-là. Hip-hop. Je sais qu'il y a des danses qui n'ont pas été nommées par les gens qui les ont créées. Donc, il y a un danseur avec qui je travaille qui fait du flexing, par exemple. C'est des pointes, en fait. C'est l'équivalent du classique avec des baskets. Et il disait qu'en fait, c'est pas eux qui avaient donné ce nom-là. C'est parce qu'ils étaient passés à la télé et qu'à un moment donné, le journaliste s'est dit « Bon, bah, c'est quoi votre danse ?» Et il savait pas à quoi dire. Le gars a dit « On va appeler ça du flexing parce que vous êtes souple, en fait. » HIP, HOP, parce qu'on sautait partout, en fait. Mais ce qui est péjoratif, parce que à l'époque du jazz, tout ce qui était les sauts était vu comme archaïque. C'était singé par les autres danses classiques, contemporaines, et qu'il y avait vraiment un dégoût des chorégraphes de l'époque sur les danses jazz, parce que ça se rapprochait d'une esthétique dite animale. Donc, plus on pousse l'analyse de qu'est-ce que nos danses, nos cultures viennent dire dans le... Mais si elle n'est pas traduite par nous aujourd'hui, elle va être effectivement singée. Et c'est là où je me déplace en me disant, OK, on a eu cette urgence de se mettre en mouvement, à travers les cris du corps ou le rap, etc. Mais il va falloir aujourd'hui qu'on mette des mots parce qu'elle a été étudiée que de manière sociologique, anthropologique et journalistique. Et ça ne fait que perdurer le fait colonial. Et les gens nous limitent à une forme de divertissement alors qu'on est vraiment dans une urgence de dénoncer nos récits et qu'on s'inscrit dans une strate de mouvements de population qui ont refondé et qui réitèrent des traditions ancestrales nécessaires. D'abord de façon spirituelle, à travers des rites, et pas pour des représentations à destination d'une rémunération, etc.
Alors, tu décides de prendre la main et tu deviens chorégraphe. Comment tu passes justement de danseuse qui, a priori, est plus dans une interprétation de gestes dont on imagine qu'elle n'est pas vraiment à l'origine, en tout cas qu'elle n'a pas forcément la maîtrise de leur expression scénique, à créatrice de ces mêmes mouvements? Est-ce que ça change ton regard sur ton propre corps et est-ce que ça change le regard des autres?
Alors, moi, j'ai vraiment eu très longtemps le sentiment de m'adresser à nous, ce nous des Suds, et de me dire que les gens vont se déplacer, sauf qu'à un moment donné, les gens, ça leur parle plus, ces espaces-là. Et personnellement, je me suis vue aussi beaucoup me blesser, pour me dire, il y a un endroit, inconsciemment, je ne suis pas confort, il y a un truc qui ne me convient plus. Et la façon dont j'avais de parler de nous, et de nous célébrer, de nous valoriser, quand je le voyais traduit journal, au niveau presse, pareil, ça me mettait en tension, quoi.
Parce que ça s'était traduit comment?
C'était jovial, c'était rigolo, c'était beau à voir. On était l'exception quand on était programmé. On n'était jamais dans une programmation type. On était jeune public, on était l'exception par un festival de cultures urbaines, qui, comme je dis, un fourre-tout. Et puis, ce que je dis beaucoup, c'est aussi... quand c'était d'autres compagnies qui venaient pas de France, là, ils pouvaient faire du politique. Je me rappelle de même Bros ou Bruno Beltrao. Quand ils parlent de favela ou des conditions précaires au Brésil, là, ça passe. Mais nous, moi, parler des os humains, j'ai fait une pièce qui s'appelle ZH, je peux pas parler de ça. C'est compliqué, c'est flou, c'est pas...
Quand tu dis ça, c'est-à-dire que t'as fait ta pièce et comment elle a été accueillie?
Alors, elle est accueillie comme étant pas solide parce qu'elle aurait pas les fondations dites des références qui seraient plus contemporaines. Sauf que à cet endroit-là, j'insiste pour dire que je suis pas dans une carrière parce que j'ai pas de diplôme, j'ai pas fait une école de danse, j'ai pas un CV. Jusqu'à présent, j'ai pas eu à faire de CV, et qui fait que on s'inscrit pas, en tout cas venant des Suds, pour moi, on s'inscrit pas dans tout ça. Qui fait que quand on arrive, on a d'autres outils pour pouvoir créer ce qui serait des rendez-vous. Moi, j'appelle ça des rites de passage. Alors, on pourrait appeler ça des créations chorégraphiques, des opéras-ballets. Et donc, en face, s'ils ne comprennent pas, ils vont le traduire d'une façon assez naïve, en fait. Et nous, ça nous met en tension, quoi. Donc, moi, j'estime que quand je fais ZH, c'est rapporter ce regard blanc qui est posé sur moi quand j'ai plus mes gens qui viennent me voir. Je me dis, mais comment je suis perçue par ce public-là? Et là, je me rends compte qu'il y a un regard qui a été façonné à partir de ces os humains qui existent encore aujourd'hui. Il y a une façon travestie de refaire des expositions universelles pour moi aujourd'hui. Et on ne les appelle plus telles quelles, mais il y a une façon de reproduire ces mécaniques-là. Bon, on sait encore qu'il y a le village Bamboula. Donc, pour moi, c'est une façon...
90,
voilà, c'est ça. Ça perdure, mais... Donc, c'est un peu là, avec le fait de moins danser, que je m'autorise à passer à l'écriture ou en tout cas d'essayer d'articuler retrouver une langue qui soit la mienne. Donc, je pense beaucoup à cette démarche du marronnage, pour moi, avec laquelle je pense...
Donc, le marronnage, c'est l'activité des personnes qui étaient victimes de l'esclavage, qui consistait à s'enfuir et à essayer de trouver une autre vie en dehors des espaces d'esclavagisation.
Voilà, donc c'est des espaces qui sont vus comme austères, la forêt, la montagne en Réunion, les marécages aux États-Unis. Donc, là où le blanc ne va pas aller, mais là où le fugitif, il va pouvoir se refaire toute une cosmopolitique où il va pouvoir se nourrir, se loger et essayer d'en libérer d'autres, en fait. Donc, cette façon de ruser, de prendre de l'espace qui va contraindre en fait les colons à faire des traités, j'essaie de m'en imprégner En fait, à la base, le hip-hop, c'est contestataire. On n'était pas d'accord. Il y avait des manières de se soulever, de se révolter. Et pour le coup, là, les mots sont importants. Quand on dit les émeutes urbaines, je suis pas d'accord. C'est pas des émeutes, c'est pas des animaux. On se révolte, on est insurgé. Et donc, on a perdu, avec le temps, avec cette professionnalisation, on a perdu cette notion contestataire, en fait, de cette culture hip-hop.
Alors, on va faire une petite pause et on se retrouve tout de suite après.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 000 lieues sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Alors, en 2019, tu es sollicité par Clément Cogitor pour travailler avec l'Opéra de Paris. C'est à l'occasion des 350 ans de l'institution, donc un anniversaire. Il s'agit du spectacle Les Indes Galantes, donc un opéra-ballet créé par Jean-Philippe Rameau au XVIIIe siècle, 1735, et donc qui est vraiment le fait colonial, incarné le fait colonial, puisqu'il s'agit donc de raconter cette épopée, enfin le fait d'aller dans les territoires dits exotiques et de voir des corps non blancs. Et donc c'est vraiment, les Indes Galantes, c'est vraiment ça. Donc comment t'as accueilli cette proposition? Et comment est-ce que tu as pensé cette chorégraphie?
Et puis comment on est venu te chercher? Comment tu as été approchée? C'est intéressant ça aussi.
Alors, moi j'aime beaucoup les collaborations. Il m'arrive pas mal de collaborer avec les gens. C'est une manière de pouvoir continuer à façonner mon expérience en me disant j'ai pas fait d'école, j'ai pas fait de formation. Et que c'est une manière pour moi sur le tard de pouvoir me rendre compte des savoir-faire et des savoir-être qu'on a. Donc, Clément m'a envoyé un mail en me disant voilà, qu'il avait entendu parler de moi et c'était une professeure des universités à Paris 8, à Saint-Denis, que j'avais convié à un de mes spectacles pour faire une discussion qui lui a parlé de moi, que j'abordais le fait colonial et que je travaille avec une crumpeuse. Donc, il avait déjà casté des danseurs, plutôt sur YouTube, en regardant ce qu'ils faisaient. Donc, moi, j'avais plus que la Corée à faire, quoi. Donc, ça a d'abord été un film court pour ce qui était la plateforme 3e scène de l'Opéra de Paris. Alors, ce que j'ai aimé, c'est que, au départ, je devais être la seule chorégraphe, mais il y a des danseurs qui sont un peu révoltés en disant « Moi, il n'y a personne qui touche à mes danseurs, c'est moi qui chorégraphie. » Et puis, il y en a un autre qui était en Belgique, qui disait « Moi, je suis en Belgique, ça peut peut-être vous aider, parce qu'ils avaient cassé des danseurs en Belgique. » Je leur dis « C'est intéressant, ils prennent l'espace. » Donc, j'étais la seule meuf aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils prennent l'espace. Le seul regret que j'ai, je me suis dit « Peut-être qu'on va se parler pour vraiment se dire « Est-ce que vous voyez ce que c'est les Indes Galantes ?» Et c'est là où je trouve qu'il y a des endroits où on se perd, qui est qu'on n'a pas eu rendez-vous avec l'idée de tordre l'opéra ballet Les Indes Galantes. Ils avaient rendez-vous en confrontation entre les uns et les autres. Et là, je me suis dit, bon, on n'est pas au même endroit. Moi, j'ai besoin que mes danseurs, qui étaient plutôt les pionniers en France, saisissent la portée raciste et esclavagiste de l'œuvre. Donc, je fais tout un travail de leur montrer des images, de leur faire écouter des sons. Je leur parle de mon travail. Et je sens que ça les questionne, quoi. Ils ont envie d'être au rendez-vous et ils sont chargés. La première chose que je fais, c'est de réitérer ce cercle qui est le nôtre en hip-hop et le leur en cercle. Et là, l'autre chose encore que je veux, c'est que pour le coup, c'est pareil. Il y a toujours une seule meuf dans les groupes. Là, en l'occurrence, ils avaient choisi de mettre une seule meuf, Nadia, et je l'ai mis au centre. Et là, bah, bien entendu, c'était comme moi au début, quoi. Et elle se sentait tellement pas légitime. Je lui dis, mais en fait, vraiment, à la fin, il faut que tu te sentes légitime. Il faut que tu sentes que c'est ton espace et que tu as le droit d'en être. Je l'ai vu se transformer. Donc, c'est parti d'un rituel pour moi d'abord, d'une conscientisation de l'espace, des enjeux, sans faire un focus sur ça. C'était d'abord comment on se rencontrait, nous, et comment on allait se parler. Et jusqu'à présent, je peux vous garantir qu'on est en contact et on a besoin de définir et de continuer à avoir ce dialogue un peu initiatique, en fait. Donc de ce film-là, où nous on s'est dit, bah, en fait c'est nos habitudes, on fait tout le temps ça, il n'y a pas de surprise. Ça a été vu comme un truc extraordinaire, mais au début on était contents, mais avec le recul je me suis dit, c'est exceptionnel à quel endroit ? Donc il faut à chaque fois que ce soit dans d'autres mains pour que ce soit exceptionnel en fait. C'est là où ça m'attriste parce que moi, il ne voulait pas en fait de moi quand il a fallu faire l'opéra ballet.
Qui ne voulait pas de toi ?
Quand il a fallu faire l'opéra ballet, donc la suite, Clément Cogitor me dit, mais en fait, je sors de l'opéra, ils veulent faire l'opéra ballet, tu vas le faire avec moi ? Je dis, ben, moi, je suis chaud, je suis d'accord. Sauf que quand il donne mon nom, les gens ne le connaissent pas et disent, mais en fait, tu dois prendre une grande figure comme Sidi Lerbi-Cherkaoui, Anne-Thérèse Kamsmaker. Et ils lui ont mis la pression, lui disant, tu ne fais pas le bon choix de travailler avec Bintou Dembélé. Donc moi, ça me gonfle. Je dis, ah ok, ça va être un défi. Donc voilà, c'était plutôt se dire en fait, ah ok, vous continuez à ne pas nous envisager, ben on va en être. On va mettre notre pied, on va pas sortir quoi. Donc voilà, il y a des endroits où si j'avais pas fait cette collaboration avec Clément, je n'y étais pas. Mais en même temps, si lui il avait pas travaillé avec moi, il aurait pas pu travailler ces danses-là. Il connaissait ni le spectacle vivant, ni toutes les danses avec lesquelles on a travaillé quoi.
Là encore, ça a été une prise de possession d'un espace qui n'était pas
tout à fait
le tien, le vôtre. Enfin, on vous l'a pas offert quoi. Comme quand tu dis au début, quand tu danses, enfin en bas de chez toi,
ouais.
Où c'était pas, on vous a pas déroulé de tapis, etc. quoi. C'est encore une fois une
prise d'espace.
Ou une prise d'espace. Et d'ailleurs, tu dis, ces danseurs ont pris la Bastille, parce que ça a été un succès, en fait. Ça a rajeuni le répertoire de l'opéra de Paris. Parce que, enfin, je veux dire, bon, je ne sais pas si vous avez moins de 25 ans et si vous allez à l'opéra, mais je crois que ce n'est pas trop les statistiques.
Ce n'est pas trop l'usage qui a été fait du pass culture pour les jeunes. Mais ce que tu dis aussi, enfin, quand on s'est entretenu en amont du podcast, tu disais que cet événement a été présenté comme une grande première, mais qu'en réalité, le fait de le dire comme ça, ça a invisibilisé des événements qui avaient déjà eu lieu dans les murs de l'Opéra de Paris.
Oui, et je pense que ça aussi, ça fait partie des choses qui nous empêchent d'avoir vraiment une place attitrée dans les espaces institutionnels culturels français. C'est de faire croire qu'il y a une première fois, que c'est exceptionnel et que c'est extraordinaire. C'est pas vrai. En fait, ça fait longtemps que des personnes des périphéries, ou ces cultures, ou hip-hop, ou street dance, ou autres, sont là. Simplement, on va. C'est les personnes qui arrivent en face qui disent « mais c'est extraordinaire », qui disent que c'est la première fois. Mais c'est la première fois pour vous, en fait. C'est la première fois pour vous, la personne, très honnêtement, qui a fait le documentaire Anne Galante, c'était la première fois pour lui, en fait. Pas pour nous.
Il s'appelle Philippe Béziat.
Tout à fait. Et c'est là où j'ai pas vocation à faire toute une pédagogie pour dire cessez d'invisibiliser nos histoires.
Mais est-ce que tu peux justement rappeler ce qui a déjà eu lieu auparavant à l'Opéra?
Alors, il y a déjà eu une version de Sidi Rabi Cherkaoui, qui est un chorégraphe belge.
Une version des Indes Galantes.
Des Indes Galantes. Il y a déjà eu une version de William Christie avec des danseurs hip-hop. Colin Serrault, qui avait déjà fait appel en 2000 à des danseurs. Il y avait mon frère dedans, Ibrahim Dembélé, avec le petit-fils de Charlie Chaplin, James Thierry. Et puis, voilà, il y a plein de chorégraphes qui adorent le hip-hop. Il y a Crystal Pite qui adore le hip-hop, qui le dit. Il y a plein de chorégraphes qui aiment bien travailler avec ça. Et du coup, on le voit, mais c'est pas, ils n'ont pas vocation à dire on travaille avec du hip-hop. Faire du hip-hop, c'est devenu, on vient prendre des gens issus d'eux, de banlieue, on vient les aider. Non, vous ne nous aidez pas, en fait. On se débrouille comme des grands, déjà. Et c'est pas notre intérêt, c'est le vôtre de dire que vous venez nous voir. Moi, j'ai souvenir, étant jeune, d'avoir des chorégraphes contemporains qui viennent nous voir en banlieue, parce que c'est des subventions qu'ils vont avoir. C'est des grilles de financement pour leur dire, si vous faites des actions culturelles en amont de votre spectacle, vous allez avoir telle subvention. Mmh. Ça se situe d'abord à cet endroit-là. Qui fait qu'il y a ce truc-là qui perdure de se dire, quand on fait appel à nous, c'est les quartiers défavorisés, c'est tous
politique
ces termes-là.
De la ville, en fait, et tous les financements.
Exactement,
qui sont fléchés.
Exactement, c'est des
pour...
sous qu'ils viennent chercher. Mmh. Et donc là, les danseurs Crump avec qui je travaille vivent la même chose que nous dans les années 80. On vient les voir, on leur dit, votre danse est magnifique. Mais encore, pas de contrat. Pas de sous proposés, on vient juste leur donner des mots et ils se contentent de ça. Et ils savent pas quoi faire de ça. Ils sont très gentils, les gens, quand ils viennent les voir. Mais il y a une... Voilà, à un moment donné, il faut juste considérer et respecter les gens, quoi.
En fait, tu reparles encore de cet effacement que fabrique le racisme. En fait, à chaque fois, on redécouvre l'eau chaude. Et le fait de redécouvrir l'eau chaude, ça efface les gens d'avant qui ont fait ce travail-là. Et en fait, ça fait que, en fait, on revient toujours à zéro. Il n'y a pas d'histoire. Enfin, l'histoire est effacée et réeffacée. On sent qu'il y a quelque chose, que c'est usé, qu'il y a... Mais en fait, on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Et à cause de cette médiatisation, tronquée, on en revient toujours au même point, c'est-à-dire au point de départ, au point zéro, où avant nous, il y avait... Enfin, on est les premiers, on serait les premiers, on est les pionniers, on est les...
Et ça, ça fait beaucoup de mal. Aussi, c'est ça. Et
ouais,
en fait, excuse-moi, je t'interromps, mais
il y a quelqu'un qui les a découverts.
C'est ça. Alors, ils sont venus vous découvrir là, sur votre territoire
c'est
et
très
voilà,
important.
Et leur donner accès.
Ouais, c'est ça. J'ai découvert ça. Mais c'est ça. Et alors, l'autre truc très concret, c'est que... C'est qui touche les droits derrière?
Bah ouais.
C'est qui est rémunéré? Enfin, il y a eu tellement de trucs, là. Il y a une nouvelle captation qui est sur Arte, là, en ce moment, en concert. Enfin, moi, on ne m'a pas consulté. Je suis pas, j'étais pas au courant, en fait.
Et tu n'es pas crédité, en fait
Alors, en tout cas, il y a écrit que je règle les chorégraphies. Je ne suis pas technicienne, en fait.
Écrit que tu règles les chorégraphies?
Ouais.
C'est-à-dire
En fait, c'est là où... ils invisibilisent ma présence. Il y a même eu une affiche où je n'étais pas dedans. Enfin, à un moment donné, c'est une façon de m'effacer. Mais du coup, c'est pour ça, autant je questionne les mots, mais quand tu les utilises pas, d'autres en mettent et t'existes plus. Là, à plein d'endroits, que ce soit le documentaire ou autre, ce seraient les danseurs qui seraient arrivés et qui auraient tout fait.
Ouais.
Il faut arrêter avec ça. Enfin, il y a des... faut arrêter.
Bah, c'est comme pour la mise en scène, en fait. C'est un travail complet sur un opéra ballet.
Tout à fait. Donc, voilà, c'est très compliqué. Et puis derrière, très concrètement, c'est quel salaire je vais avoir, quel droit je vais avoir. Moi, je pense que les ayants droit de Bob Marley, ils n'ont pas vraiment ce qu'ils doivent avoir. Il se retournerait dans sa tombe s'il savait que c'est pas ses enfants qui ont... Vous voyez ce que je veux dire, concrètement? Je suis désolée. Moi, ça m'attriste de savoir qu'une Nina Simone ou une Billie Holiday sont mortes pauvres, en fait, ou démunies. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'aujourd'hui, on est encore en train de les célébrer, d'en faire des reines. Mais est-ce que vous savez qu'elles sont passées par la pauvreté? C'est ça que ça questionne. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des félicitations, des mais derrière, concrètement, on n'est tellement pas préparé. C'est pour ça que je parle pas de carrière, parce qu'on est, on sait pas, au début en tout cas, on sait pas faire ça. Moi, j'ai dû faire tout un travail de passer de l'association à une structure, tout en gardant mes termes, de dire que ça peut être viable au niveau institutionnel avec l'administration française. Et c'est très compliqué. Donc c'est là où je veux en venir, c'est vraiment de se dire que comment on fait valoir nos récits, qui sont plutôt des formes spirituelles ou des rituels, sur des scènes où nous avons le droit d'en être parce qu'on paye nos impôts, et d'essayer d'avoir un public qui soit concerné, parce qu'on aurait peut-être par moment fait de la gratuité, ou en tout cas quelque chose d'abordable, et qu'on puisse demander des subventions. Alors là aussi, quand je fais des recherches, je me rends compte que Malraux, quand il crée le ministère des Affaires culturelles, il part avec le fait que c'est quelque chose qui va être vu comme secondaire. Et donc il fait appel à des administrateurs coloniaux d'outre-mer pour pouvoir faire un commando, pour que puisse être solide ce qui sera le ministère des Affaires culturelles. Des administrateurs coloniaux. Donc moi, quand je fais personnellement, quand je fais une demande de subvention, il reste des traces de ce truc-là. Je ne suis pas envisagée comme une personne qui pourrait avoir des droits, une économie et des lieux pour pouvoir travailler. Donc c'est à cet endroit-là où je suis aigrie, je suis diminuée, je suis en colère, parce que malgré le succès international de cette œuvre, je reste en difficulté d'être accompagnée. Et à l'époque, j'étais aidée avec la plus faible des demandes. Et on ne voulait pas, ils estimaient que ce n'était pas... ils te mettent tout le temps dans un truc de « on va réfléchir » ou « expliquez-nous » ou « on va prendre le temps, on va voir ». Donc c'est, ça gigote, ça ne bouge pas. Les choses ne bougent pas, ça gigote.
Bah, du coup, ce que tu abordes là, c'est la question de qui tire bénéfice en fait, de ces collaborations. Parce qu'en réalité, vous démenez. Tu as parlé de ton corps, de la manière dont tu l'as investi, des blessures que ça a pu occasionner. Et en fait, cet art, ce mouvement culturel, le hip-hop, il vient vraiment de la douleur de plusieurs populations opprimées. Donc finalement, quand on arrive en bout de course et qu'on vient solliciter des danseurs qui, par l'histoire de leurs aïeux, par aussi ce qu'ils ont investi pour accéder à ce niveau, sont devenus des professionnels, et qu'on arrive en bout de course d'un mouvement qu'on ne connaît pas, et que finalement, ça bénéficie à la personne qui est la moins concernée par le mouvement, ça interroge, toi.
Moi, si je prends recul, alors il y a un terme qui me vient et qui m'a vraiment apaisé, c'est le terme tokenism. Mais je n'ai pas l'équivalent en français, par contre. Tokenism, c'est vraiment c'est plus qu'un sentiment, c'est cette place qui me serait attribuée pour dire on ne fait pas de discrimination parce qu'il y aurait une bintou qui serait passée par-ci, 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 par-là. Mais... est-ce qu'il y en a d'autres derrière? Enfin voilà, où sont la place des Asiatiques? Où sont la place des Indiens? Où sont la place des... Et en fait, c'est parce qu'on en a mis un peu un là au cinéma, un là en danse, un là en musique, qu'on a l'impression qu'il y a un vrai travail qui est mis en place, alors que non, en fait. Donc, et ça, cette chose-là, elle est arrivée aussi pour les femmes, etc., etc. Hein. Donc, moi, j'ai le sentiment qu'on me met à cette place-là. Là où j'aimerais juste travailler, faire mon travail, avoir des moyens pour le faire, avoir mon tempo pour le faire, parce que j'ai pas vocation à répondre à l'institution. J'ai besoin de répondre à des communautés, des populations qui ont envie d'entendre parler de leurs récits avec les fondations, les codes qui sont les leurs. Et convier d'autres populations à pouvoir comprendre ça. Mais j'ai pas vocation à m'adresser à l'institution.
Moi, pour tokenism, généralement, je dis plutôt alibi, en fait. Je trouve qu'en français, en fait, le terme, c'est juste l'alibi. C'est-à-dire qu'on va utiliser une personne minoritaire dans un contexte, en fait, qui est structurellement raciste ou sexiste, etc. Et on va dire que cette personne-là, en fait, ça va être l'alibi du racisme, l'alibi du sexisme ou du pinkwashing, etc., etc. Et du coup, je trouve qu'en français, ça sonne plutôt juste.
Oui, et ce que vous évoquez, donc, le tokenism en anglais, l'alibi en français, c'est vraiment la limite de la représentation qu'on demande. C'est-à-dire que, en fait, quand tu parles de qui tire les bénéfices, et qui mettons en avant, c'est vraiment ça. C'est qu'en fait, les personnes qu'on met en avant ne sont pas celles qui tuent le bénéfice de cette mise en avant. En tout cas, le plus, c'est que si on te dit « Ah, j'ai un job pour toi, mais tu seras payé en symbole. » Parce que c'est ça, en fait, que ça veut dire. C'est « Non, mais il n'y a pas d'argent, mais
c'est tu pour... seras la première femme noire.
Ouais, c'est pour ta visibilité, c'est ça. Là. C'est pour la visibilité. Et donc, cette phrase-là, c'est vraiment ça. En fait, donc, toi, tu vas travailler, tu vas mobiliser ton savoir-faire que tu as emmagasiné depuis des années et des années au service de quelqu'un d'autre, en réalité.
Tout à fait.
Et on va dire « Non, mais c'est l'Opéra de Paris, ou bien c'est telle institution, ou je sais pas, c'est les States, ou j'en sais rien. » C'est magnifique, tu vas voir, sur ton CV, ça va faire quelque chose. Et là, maintenant, tu sais, avec le recul, qu'en fait, même ça, c'est pas suffisant, en fait, à avoir un autre... qui sont les gens derrière, et pour toi, pour demain, c'est-à-dire comment tu vas faire. Et donc, en fait, ça, il y a vraiment une question d'épuisement face à cette... L'épuisement, c'est-à-dire l'épuisement de l'effacement, l'épuisement du tokenisme, l'épuisement de ces mensonges de représentation, de ça... Et ça nous attaque, en fait, parce que ça a vraiment des effets délétères sur notre santé mentale et sur nos corps. Enfin, toi, tu parles depuis tout à l'heure d'autodestruction, parce que c'est aussi ça que... Enfin, ton métier, il est manuel, en fait. C'est un métier...
Je suis artisante, tout à fait.
Est-ce que ça, c'est vraiment des choses que tu as à cœur de combattre aussi, enfin, de te protéger, de protéger les autres contre cet effacement, cet épuisement du corps et de l'esprit?
Je me rends compte que c'est... J'avais pas vocation à faire ça. Je voulais faire mon hip-hop, je voulais danser, je voulais pas... Enfin, qui a envie de combattre? Qui a envie de lutter? En fait, c'est fatigant, c'est épuisant. Encore plus maintenant, parce qu'on voit qu'il n'y a pas de changement. Et finalement, je sais qu'à plein d'endroits, j'étais pris du racisme, en fait. Et des discriminations qui fait que j'avais besoin de danser, d'exprimer ça. On exprimait vraiment cette rage de tout ce qu'on subissait. Mais j'ai commencé en 85. On est en 2022. Je ne sais pas comment vous expliquer. Pour moi, les mots mentent trop, en fait. Pour moi, le corps ne ment pas, en fait. Et on n'est pas là, on n'est pas visible. Donc, ça dit quelque chose. Et l'idée du questionnement, du débat, de la réflexion, j'en suis fatiguée. C'est clair que c'est fatigant. Là, vraiment, quand je parle comme ça, c'est un besoin d'aller au fait. Mais j'ai pas envie de lutter. Avant moi, c'est nos parents, en fait, qui ont été... c'est leurs mains qu'on a coupées. Mon père, il est mort, il a eu Parkinson. Son corps, il était comme ça. Donc, est-ce que je veux, moi, mourir comme ça? Non. Non. Donc, j'ai pas envie de lutter non plus. Donc oui, c'est considérer que nous avons des façons de faire. Mais pour moi, on a des alliés, il faut qu'ils se bougent plus. Là, je vais être très concret. Si on a des alliés, si des gens se disent être nos alliés, il va falloir que vous vous exprimiez un peu plus. L'idée de définir tout... Enfin, voilà, il y a beaucoup de termes qui ont été employés pour définir des nouveaux courants de pensée, etc. Concrètement, ça donne quoi? Moi, ça gigote, ça bouge pas. Très concrètement, ça gigote, ça bouge pas. Je suis en train de revivre mes années 80 avec une montée de l'extrême droite qui vient dire que, en fait, ça ne sert à rien, toutes ces discussions. Donc, voilà, j'ai pas envie de lutter, mais tous ceux qui se disent alliés, on ne vous entend pas suffisamment. Moi, personnellement, je ne vous entends pas suffisamment. Moi, j'exprime mon cri du corps. Je ne parlais pas. Aujourd'hui, j'essaie de prendre cet espace-là, alors que c'est pas mon espace. On dirait pas un philosophe de danser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous voyez le pas que je fais. Rokaya, fais ta démo.
Philosophe, je me dis.
Grâce, grâce, c'est parti.
Une vague.
Bon, en tout cas, merci. C'est une question super importante, Bintou, la question de la santé mentale et de l'effet que toutes ces questions-là ont sur nos corps, sur notre stabilité mentale, émotionnelle. Donc, malheureusement, on ne pourra pas poursuivre au-delà, mais merci d'avoir partagé avec nous des éléments de ta très riche carrière. On sait que elle s'est poursuivie, évidemment.
Déplacement.
Ouais, c'est ça. Moi, je continue. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, par rapport à ce que tu disais sur. Je ne suis pas revenue dessus, mais quand tu disais que c'est parce que tu n'as pas de CV, que tu n'as pas de formation officielle, tu n'as pas de carrière, pour moi, ce n'est pas le cas. Enfin, pour moi, la carrière, elle s'inscrit pas forcément dans les canons du tampon de l'État, donc voilà.
C'est toi qui délivres les diplômes hip-hop maintenant.
C'est ça, exactement. T'es une pionnière, t'es la plus compétente pour évaluer le niveau des personnes en France, et en tout cas pour faire et défaire des carrières. Donc oui, voilà, en tout cas, tu nous as fait part de tes très riches déplacements. Il y a plein de choses qui sont passées depuis les Indes Galantes, des choses que t'as fait aux États-Unis avec la Villa Albertine. Malheureusement, c'est la fin de ce numéro de Kif Taras avec toi, Bintou Dembélé, chorégraphe et directrice artistique. N'hésitez pas, vous qui nous écoutez,
hésiter à nous faire part de vos opinions sur l'échange que nous venons de mener, si vous avez des commentaires, des questions, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce que vous avez entendu, n'hésitez pas.
Écrivez-nous à kiftaras@binge.audio ou contactez-nous sur les réseaux sociaux en suivant @kiftaras sur Twitter, Facebook, Instagram ou avec le hashtag kiftaras.
Kiftaras est un podcast produit par Binge Audio. La prise de son aujourd'hui est assurée par Elisa Grenet. La réalisation est signée Adèle Itel Elmadani.
Merci à Naomi Titi pour la production et l'édition. Merci à Jeanne Longhini et Lise Niederkorn pour la communication et la présence sur les réseaux sociaux.
On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci Grace.
Merci Rokhaya.
Merci Bintou.
Merci
Bintou.
Merci à vous.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.